Bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Dans ce journal, nous évoquerons la situation des femmes au Yémen, puis en Europe, en allant à Berlin, où cette journée mondiale est un jour férié pour la première fois. Et puis nous regarderons de près le rapport du CSA publié aujourd'hui et qui pointe une inégalité encore persistante dans les médias sur la place des femmes sur les antennes, en tant que journaliste ou invité des radios et des télés.
Et puis justement, notre invité ce matin est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Nous lui demanderons ce qu'elle pense du refus de plusieurs conseils de prud'hommes d'appliquer le barème du plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif.
Et puis dans son billet politique, juste après ce journal, Frédéric Seitz posera la question de la souveraineté.
De l'équilibre ou du choix à faire entre souveraineté nationale ou européenne, comme l'un des enjeux de la campagne des élections de mai prochain. Et puis 5 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines, les familles de 239 passagers et membres d'équipage disparus attendent toujours des réponses. Précision à suivre avec Dominique André à Pékin à la fin de ce journal. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous nous intéressons ce matin aux femmes du Yémen, où la guerre dure depuis 4 ans. Un conflit sanglant et qui menace de la famine une large part de la population. Omar Waman a rencontré 3 représentantes de la société civile yéménite en visite à Paris pour faire entendre leur voix et leur détresse dans ce pays où 80% de la population a besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.
C'est pour faire entendre la voix des femmes du Yémen que Aïcha Tawab est de passage à Paris. Cette militante féministe, originaire du nord du pays, gère plusieurs centres de santé.
Depuis le début de la guerre, le rôle de la femme au Yémen est capital. Les hommes étant au front, parfois blessés ou morts, elles se retrouvent seules, soutien de famille. Elles sont également plus vulnérables face aux violences du quotidien.
Des violences qui ont poussé de très nombreuses femmes à fuir leur village, souligne Dalia Kassim, directrice d'une fondation dans la ville portuaire d'Odeida.
De nombreuses femmes vivent dans la rue. Elles ont tout perdu. Elles sont donc plus exposées aux violences, mais aussi au harcèlement. Du coup, on assiste à de plus en plus de mariages très précoces, de jeunes filles qui ont entre 9 et 16 ans à peine. C'est pour leur assurer une protection familiale.
Leur assurer une protection, mais également afin de bénéficier de la dot, dot versée par la famille du futur époux, rappelle Dina El Mamoun de l'ONG Oxfam, basée à Sanaa, la capitale.
Les mariages précoces au Yémen ont toujours existé, mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui marient leurs filles très tôt pour subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes au Yémen n'ont jamais été aussi vulnérables.
Des femmes qui se sont battues pour participer au processus de paix en cours à l'origine de la libération de très nombreux prisonniers.
Omar Waman pour France Culture. Direction maintenant l'Europe. On est encore loin aujourd'hui d'une égalité réelle des droits entre les femmes et les hommes, même si la société évolue. C'est un 8 mars très spécial à Berlin, puisque pour la première fois, cette journée internationale des droits des femmes devient un jour férié, et férié pour près de 4 millions d'habitants, puisque Berlin, dans une Allemagne fédérale, est à la fois la capitale, une ville et un État libre de décider de ses jours fériés. Berlin affiche donc ainsi sa différence par rapport au reste de l'Allemagne, Ludovic Piétenu.
Berlin porte haut ses couleurs progressistes et pourquoi pas avec cette décision influencer quelques-uns des 15 autres États allemands et au-delà en Europe. Franziska Giffey, la ministre allemande des femmes.
C'est une décision très importante qui nous donne du vent dans les voiles au niveau fédéral car l'égalité n'est pas là. 21% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes en Allemagne, 53% pour les pensions de retraite et toujours ce plafond de verre dans les grandes entreprises allemandes du DAX. Nous venons de changer la loi et d'instaurer des quotas. Ça va bouger.
Mais faire de ce 8 mars un jour férié n'a pas été simple, se souvient Iris Spranger, cette élue social-démocrate d'un quartier populaire de Berlin, est à l'origine d'une pétition.
Dès le premier jour, nous avons eu le vent de face et cette forte opposition venait des démocrates chrétiens de la CDU, des libéraux du FDP et de l'extrême droite AfD. J'espère que les Berlinoises et les Berlinois vont profiter d'un joli week-end prolongé, mais ce doit être aussi une journée de lutte et que ça le soit chaque année.
Car la parité reste à gagner dans une Allemagne encore très patriarcale. 100 ans après que les femmes allemandes ont obtenu le droit de vote, des Berlinoises veulent ce soir pousser un cri pendant 100 secondes.
Wir streiken.
Et dès ce matin, sortir des chaises dans les rues et sur les places, s'asseoir et ne rien faire, pour prouver, disent-elles, que quand les femmes arrêtent de travailler, le monde ne bouge plus.
Ludovic Piétenu, le correspondant de France Culture en Allemagne.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. En France, les femmes sont toujours sous-représentées à la radio et à la télévision par rapport à leurs collègues masculins.
C'est ce que dit le CSA dans son nouveau rapport publié ce matin. Alors que la présence des femmes dans l'audiovisuel avait tendance à augmenter ces deux dernières années, l'année 2018 affiche une légère baisse, moins 1% par rapport à l'année précédente, avec 39% de femmes, toutes chaînes confondues. Cette baisse est une contre-performance préoccupante, selon le CSA, Audrey Dumas.
Oui, car on est loin de la parité et ça ne s'améliore pas. Le Conseil prend en compte toutes les femmes qui apparaissent dans les médias, qu'elles y travaillent ou qu'elles y soient invitées. Et dans chacune de ces catégories, les résultats ne sont pas bons. Le nombre de présentatrices comme le nombre de femmes journalistes n'augmente pas. Il baisse même depuis 2015, en plateau comme en studio, même si les femmes sont encore 47% à présenter des émissions. Les femmes politiques, elles, sont les moins bien représentées. Elles comptent pour moins d'un tiers des invités. Le CSA observe même une baisse de 5 points par rapport à 2016. Et pourtant, les femmes n'ont jamais été aussi présentes à l'Assemblée nationale. Les explications de Carole Bien-Aimé-Besse, en charge de la cohésion sociale au CSA.
C'est vrai que quand on échange avec les antennes, c'est vrai qu'ils ont leurs invités un peu classiques, leurs bons clients, et que d'aller chercher de nouvelles têtes, c'est un peu compliqué, donc on va souvent faire appel aux mêmes. C'est pour ça que du coup, ça progresse pas. Donc je pense qu'il faudrait faire plus de place à ces femmes politiques, et du coup, ça offre vraiment des regards nouveaux.
Même constat pour les femmes expertes, si leur nombre est en constante évolution, il reste des progrès à faire. Il faut que les plateaux soient paritaires, insiste Carole Bien-Aimé-Besse, et que les femmes ne soient pas là pour parler uniquement de sujets dont on pense qu'ils leur sont réservés, comme l'éducation. Le CSA qui souligne que les femmes sont largement moins visibles sur les heures de forte audience. Elles représentent pourtant près de 52% de la population française.
Le CSA précise qu'il existe une différence entre services publics et privés. Les chaînes et radios privées ont davantage de progrès à faire. Les détails de ce rapport sont à retrouver en une de notre site internet franceculture.fr. Et l'invité des matins de France Culture est justement une femme ce matin, avant tout une ministre. Muriel Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre du Travail. Vous avez porté les ordonnances de la loi Travail, dont l'une des mesures emblématiques est de plafonner les indemnités prud'homales. Et selon un article du Parisien publié ce matin, plusieurs conseils de prud'hommes ont refusé d'appliquer le barème mis en place par votre loi en cas de licenciement abusif en première instance. Et selon une circulaire révélée cette fois par le quotidien d'actualité sociale spécialisé Actuel RH, un des services de votre collègue, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, demande actuellement au président des chambres d'appel des tribunaux de grande instance de faire remonter les jugements qui contestent le barème. Est-ce que vous êtes au courant de cette action ?
Alors, quel est le sujet ? Dans les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, oui, il y a un barème prud'homal, un minimum et un maximum, sauf en cas de discrimination, je tiens à le dire, parce que, évidemment, là, c'est de l'atteinte à l'intégrité de la personne, et là, il n'y a pas de limitation.
Le plafonnement est de 1 à 20 mois de salaire maximum.
Quasiment tous les pays européens ont ce type de choses, parce que ça permet d'éviter des longs mois, parfois des années, tant pour le salarié pour que l'entreprise, avant de savoir ce qu'il en est. Et pour beaucoup de salariés qui attendaient ça, c'est très difficile de se projeter, comme pour les entreprises. C'est pour ça que les TPE-PME disent « on n'a plus peur d'embaucher, parce qu'on sait qu'on ne va pas être dans l'incertitude », et beaucoup de salariés aussi. Alors, sur le point que vous évoquez, il y a eu l'année dernière 85 000 recours au prud'homme pour des ruptures individuelles. Là-dessus, il y a quelques dizaines de recours sur ce sujet. Donc, 85 000 quelques recours. Sur ces quelques recours, il y a eu quelques jugements, 4 ou 5, où les prud'hommes ont pris une position différente dans l'interprétation de la loi. Sur un motif qui, pour nous, n'est pas du tout fondé juridiquement, qui serait que ça n'est pas compatible avec les règles de l'Organisation internationale du travail. Or, ce point avait été étudié précisément par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, qui ont confirmé que la loi était tout à fait conforme. Et par ailleurs, nous avions eu évidemment des contacts avec l'Organisation internationale du travail. Donc je pense que là, on est dans le cadre d'une loi qui est récente, interprétation, et tout ça va se clarifier assez rapidement.
Au niveau de l'action mise en place par Nicole Belloubet, vous ne contestez pas qu'il puisse y avoir cet effort, on va dire, de pédagogie, de rappeler aux procureurs ce que vous rappelez là, du Conseil d'État notamment.
Les juges prud'homaux, évidemment, sont souverains, mais comme c'est une loi nouvelle, il faut être sûr que toute la connaissance, y compris juridique, détaillée sur le sujet au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, est connue par tous. Et donc je pense que faire remonter, pour pas influencer la justice, mais que tout le monde soit bien informé et formé, me paraît une bonne idée.
Donc pour vous, ça n'est pas une ingérence ?
C'est un rappel. Rassurez-vous, on ne peut pas avoir d'ingérence de la justice dans les jugements. Ça, nous sommes dans un état de droit, une démocratie avancée, et donc l'État n'interfère pas dans les décisions de justice.
Merci Muriel Pénicaud, vous restez bien sûr avec nous jusqu'à la fin de ce journal sur France Culture. On rappelle que les ordonnances de la loi Macron du 29 mars 2018 ont instauré un montant plancher, un plafond compris entre 1 et 20 mois de salaire maximum en cas de licenciement abusif pour le montant des dommages et intérêts. La pauvreté et le besoin vital d'aide alimentaire continuent de progresser en France. Les Restos du Cœur se mobilisent aujourd'hui et samedi pour une collecte nationale essentielle pour l'association. Collecte de nourriture, de produits pour bébés, aussi indispensable pour permettre à l'association de poursuivre son aide, principalement alimentaire, pendant le printemps et l'été. L'association espère rassembler 8000 tonnes de denrées alimentaires.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont, condamné pour son silence, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, écope de 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression pédophile d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat.
Décision hier du tribunal correctionnel de Lyon. Immédiatement après le jugement, les avocats du prélat ont annoncé qu'ils feront appel. Philippe Barbarin, lui, va présenter sa démission au pape dans les prochains jours. Ce jugement est historique pour Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef à La Croix.
Ça montre deux choses, en fin de compte. Ça demande d'une part que, aux yeux aujourd'hui du juge, la non-dénonciation à la justice des faits d'un pédocriminel est pénalement répréhensible, qu'on soit médecin, qu'on soit assistante sociale, qu'on soit donc évêque. Voilà, tout responsable aujourd'hui doit avoir ça en tête, c'est qu'il doit dénoncer dès qu'il entend parler de quelque chose, et que ce n'est pas à lui, et le jugement le précise bien, ce n'est pas à lui de juger ou pas de la prescription du cas, c'est à la justice, mais c'est pas à lui de dire c'est prescrit. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, ce que montre toute cette affaire, c'est que même si ce sont des faits qui se sont passés il y a longtemps, la douleur, elle est toujours là, la blessure, elle est toujours là, et elle est là tant qu'elle n'est pas reconnue de manière officielle par la justice et par l'Église ouvertement. Parce que c'est vrai qu'au début, le père Barbarin, il a très très mal reçu les plaignants, parce qu'il s'est dit, bon, c'est de l'histoire ancienne, c'est pas grave, de toute façon, on peut plus rien faire. Or si, on peut toujours faire quelque chose, parce que la pédocriminalité, c'est un crime qui vous ronge de l'intérieur des années et des années après.
Isabelle de Gaulmin était l'invitée du journal de 22h de Guillaume Fariol sur France Culture.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont, grand reportage. Grand reportage est consacré aujourd'hui à l'Ukraine, qui élira prochainement son président.
Oui, la plupart des observateurs s'attendaient à un duel entre le président sortant, Petro Poroshenko, et l'ancienne Premier ministre, Yulia Tymoshenko, figure charismatique de la Révolution Orange, il y a 15 ans. Mais un troisième homme est en train de brouiller les pistes, un humoriste de 41 ans, Volodymyr Zelensky, très populaire en Ukraine, mais également en Russie, actuellement en tête dans les sondages. Alors que le premier tour du scrutin aura lieu le 31 mars prochain, bien loin de ce qu'elle considère comme une comédie pour la conquête du pouvoir, une partie de l'électorat ukrainien a beaucoup de difficultés à s'intéresser aux enjeux du scrutin dans un pays encore en guerre et que la corruption continue de gangréner. Christina fait partie de cela. Elle a quitté sa région du Donbass, région d'un conflit armé depuis 5 ans, afin de poursuivre ses études à Kiev.
Pour moi, c'est pas important qui devienne président. Mais si cette personne peut finir la guerre, c'est une seule condition pour moi qui est importante. Je pense que je peux faire tout pour ma vie, tout, sauf finir la guerre. Si quelqu'un peut le faire, parmi les candidats, parmi les politiciens, je suis très très heureuse. Je peux construire ma vie à l'aide de moi-même et pas les politiciens. Il ne faut pas faire la guerre. J'entends la paix dans notre pays. Je veux la paix, sans armée, sans soldats.
Avec la Russie juste à côté, ça paraît quand même très difficile. Une Ukraine sans armée, sans force armée.
J'espère qu'un jour, Poutine va être fatigué de tout cela et il va dire à ses soldats, juste rentre. Je comprends à l'intérieur de mon cœur que c'est important de voter, mais je ne sais pas pour qui.
Ukraine, la comédie du pouvoir, un grand reportage signé Claude Brouillot et réalisé par Annie Brault. Une émission à écouter ce soir sur France Culture à 17h, présentée par Tara Schlegel. Il y a 5 ans, le vol MH370 de la Malaysian Airlines assurait la liaison entre Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, et Pékin, et disparaissait des écrans radar une heure après seulement son décollage. À son bord se trouvaient 239 passagers et membres d'équipage, dont les 2/3 étaient des passagers chinois. Leurs familles se rendent aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Pékin. Elles attendent toujours de connaître la vérité, Dominique André.
D'accord, bonne nuit. Ce sont les derniers mots du copilote du MH370 avec le sol. Depuis 5 ans, M. Zhang Rui est hanté par cette question. Où est passé le Boeing 777 jamais retrouvé malgré des recherches maritimes les plus importantes jamais organisées? Les quelques débris découverts au large des côtes est de l'Afrique n'ont pas permis d'élucider le mystère. Sa mère, âgée de 71 ans, était l'un des 154 passagers chinois. Cet ingénieur nous reçoit dans son appartement cossu dans le nord de Pékin. Il continue de chercher la vérité en restant en contact avec les familles de l'avion disparu.
Je ne peux pas dire quels sont les gouvernements qui connaissent la vérité, mais je suis sûr d'une chose, toutes les informations ne sont pas données. Je suis persuadé que la vraie cause, c'est l'état dans lequel se trouvait l'avion. Mais il y a des gens qui veulent le cacher. Le rapport qui a été publié après les recherches n'est pas basé sur toute la vérité. Il a été élaboré de manière bien réfléchie pour protéger les intérêts de toutes les parties, mais la justice finira par triompher. Cette affaire ne restera pas un secret dans l'histoire.
Monsieur Zhang Rui montre un colis qu'il vient de recevoir de Malaisie. Ce sont des biscuits. Les familles des victimes du vol MH370 sont restées très proches.
Le soleil dominera aujourd'hui presque l'ensemble du territoire, à l'exception de la frontière belge du Massif central où quelques averses sont annoncées. Les températures sont comprises entre 5 et 14 degrés ce matin, avec 5 degrés à Annecy, 9 à Paris, jusqu'à 14 degrés maximum à Nice.